Parce que ça, c'est clos, ça.
Oui.
Alors, je suis revenue en Europe en 1960, après avoir publié tous ces livres. Et puis, en 60, à Montbrison, j'ai écrit j'ai commencé à écrire un récit sur Tirté, Tirté l'Athénien. Et j'ai surveillé la publication du Moustachu et de la Déesse à deux pattes qui se faisait en Angleterre. J'ai été très déçue de ça parce que on m'a trompée. On m'avait dit qu'on allait m'en donner je ne sais combien d'exemplaires et on a donné moins que ça. Enfin, il y a eu une querelle entre l'éditeur et l'imprimeur, il y a eu toutes espèces de choses. Je n'en ai eu que très peu d'exemplaires. Mais peu importe, j'en ai eu quelques-uns. Et puis j'ai écrit, j'ai commencé d'écrire trois chapitres. Ça devait avoir cinq ou six chapitres, mais j'en ai écrit trois. Tirté l'Athénien. Il faut que je dise qui c'est Tirté. C'est intéressant, ça. N'est-ce pas? On dirait presque que c'est contre notre idéologie. Mais ce n'est pas. Parce que Tirté n'était pas spartiate, il était d'Athènes. Et même avant la guerre du Péloponnèse, 427-404 avant Jésus-Christ, longtemps avant, au 7e siècle avant Jésus-Christ, jamais Athènes et Sparte ne se sont bien aimées. Elles avaient des façons de vivre très différentes. Les Spartiates, dans ce temps-là, autour de 670 avant Jésus-Christ, se battaient avec leurs voisins, les Messéniens, qui étaient aussi des Hellènes, naturellement, mais pas des Doriens. Et les Doriens étaient les plus fiers des Hellènes. Les Spartiates, d'ailleurs, étaient véritablement les plus fiers et les plus ariens des Hellènes. Les plus beaux, avec leur idéologie, n'est-ce pas, de force et de jeunesse et de perfection physique. Ils se sont fait battre combien de fois par les Messéniens malgré ces vertus. Et à ce moment-là, les Spartiates étaient en train d'assiéger une forteresse messénienne à Hyra, près de la ville, des villages grecs modernes Kakalétrie. Je suis allée à Kakalétrie exprès pour visiter Hyra et pour me rendre compte des lieux avant de terminer ce récit sur Tirté. Ils n'arrivaient pas à prendre Hyra, il n'y avait rien à faire. Hyra, c'est une colline de 500 mètres de haut, abrupte, je veux bien, mais enfin, ils n'arrivaient pas à la prendre. Ils y sont restés 11 ans, attendant de l'assiéger. Finalement, de désespérés, ils ont envoyé une délégation à l'oracle de Delphes. Que faut-il faire? Et la Pythie de Delphes, au nom du dieu du soleil, Apollon, le même Apollon qui avait donné à Sparte ses lois, parce qu'il paraît que Lycurgue ne les a pas inventées lui-même, il les a pris de la bouche même du dieu soleil. Eh bien, cette Pythie leur a dit, vous ne serez vainqueurs que si vous demandez un chef à Athènes. Humiliation. Mais enfin, puisque le dieu l'a dit, il faut le faire. Ils sont allés à Athènes, ils ont demandé un chef. Les Athéniens, pour se moquer d'eux, leur ont donné un chef qui n'y connaissait rien dans l'art militaire, qui était maître d'école, et par-dessus le marché, boiteux, dit-on, malingre, mal foutu, en somme, nous dirions de nos jours, mais ardent admirateur d'Apollon. Il aurait aimé être prêtre d'Apollon, mais on ne pouvait pas être prêtre d'Apollon dans la Grèce antique. Même si on avait eu une dent gâtée, il fallait être absolument parfait. Autrement, rien à faire. Donc, pour Tirté, ça n'était pas question. Mais il était maître d'école. Et il était un admirateur de Sparte. Il admirait ces gens qui étaient tout le contraire de lui, qui étaient parfaits physiquement. Les Athéniens lui ont dit, on dit à la délégation, prenez celui-là, c'est un admirateur de votre ville, prenez-le, ce sera votre chef. Ils l'ont pris, que faire? Le dieu l'avait dit. Et puis naturellement, les efforts de Sparte ont dû être assez déçus quand on le leur a présenté. Mais ils ont dû dire que tout de même, ils avaient des qualités morales et des qualités de caractère qui n'étaient pas ordinaires, malgré sa déficience physique. Et il a essayé de conduire la jeunesse militaire spartiate à la Soudira. Rien à faire, il s'est fait battre. Une fois, deux fois, trois fois. Finalement, il s'est dit, qu'a voulu dire le dieu soleil quand il m'a donné ce commandement? Certainement, je ne suis pas capable d'être un chef militaire. Mais peut-être des poèmes guerriers. Ah oui, c'est ça. C'est sans doute ça qu'il a voulu. Alors, il a composé des poèmes, des marches guerrières pour la jeunesse spartiate. Ce qu'on appelle des envatiria, des marches. Et elles ont été traduites dans toutes les langues, plus tard, naturellement, quand le grec ancien est devenu langue internationale. On en trouve dans nos jours. On en trouve dans l'histoire de la Grèce de Victor Duruy, du 19e siècle. Ils sont très beaux. Ces marches ont enthousiasmé la jeunesse spartiate et avec ces marches, ils ont pris la forteresse d'Hyra. Les Spartiates, par reconnaissance, voulaient donner le titre de citoyen de Sparte à Tyrthée. Tyrthée a dit non. Les dieux m'ont fait naître à Athènes, je suis citoyen d'Athènes. Et dans mon récit, que je n'ai pas fini, je ne l'ai pas fini parce que je n'ai pas trouvé assez de citations de Tyrthée pour pouvoir l'étoffer. Malgré mes recherches, je n'en ai pas trouvé assez. Et j'attendais toujours. Mais je voulais le faire aller retourner à Athènes, à pied naturellement, en voie d'eau d'âne. Et il y aurait eu, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Mégale et l'Angala, la grande vallée, au sortir de Sparte, au pied du Tégète, au pied de toute la chaîne de montagne, un orage terrible. Et dans cet orage, Tyrthée serait tombé malade. Il ne serait jamais retourné à Athènes. Mais le dieu Apollon lui serait apparu et lui aurait dit qu'il avait bien agi, n'est-ce pas, qu'il avait été toute sa vie un bon serviteur de ce dieu et qu'il renaîtrait pour sa récompense. Et il renaîtrait où? Eh bien, il renaîtrait parmi les gens de l'Europe du Nord, parmi ces Germains aux cheveux blonds ou roux qui, dans des immenses trompettes courbées, les Luren qu'on appelle, célébraient le soleil sur les bords de la Baltique. Voilà ce que le dieu Apollon lui aurait promis, une telle renaissance. Dans mon récit, je n'ai pas terminé le récit, donc les deux derniers chapitres ne sont pas écrits. Naturellement, le récit n'est pas publié. Il est aux Indes, à Delhi, chez une amie, chez cette amie qui a tous mes livres. Mais ce Tyrthée, pourquoi j'ai pensé à lui? J'ai pensé à lui parce que j'ai pensé à ma propre déficience physique. Je ne suis pas un type parfait de santé, ce qu'on voudrait appeler la santé. À la naissance, il paraît que je pesais 900 grammes.
900 grammes.
Pas même un kilo. Et qu'on a dit, n'est-ce pas, que je vivrais quelques heures. En réalité, j'ai vécu jusqu'à maintenant 77 ans. Mais enfin, je n'ai jamais été malade, mais je n'ai jamais fait d'excès. J'ai toujours eu une vie très réglée. J'ai marché beaucoup. J'ai marché jusqu'à 75 km dans une journée, en Irlande, en Islande. Et dans les champs de lave, malgré tout. Je me suis fatiguée, mais ça ne me fatiguait pas. J'ai toujours mangé très peu et j'ai toujours très bien dormi. Enfin, jusqu'à ce que j'ai eu cette attaque, je me portais très bien. Et je me sens maintenant, je me sens bien portée quand je suis assise et que je n'ai rien à faire, je n'ai pas à marcher. Je me sens bien. Mais malheureusement, ma vue se perd. Un jour, je perdrai la vue complètement à cause de ces opérations pour le glaucome et la cataracte qu'on m'a faite. Mais à part ça, à part ma paralysie du côté droit, je me porte bien. Et je pensais que, tout en étant faible, on peut servir, faible physiquement, on peut servir une idéologie de force et une idéologie guerrière. Et j'ai dit, tiens, j'en sers une, Tirti en a servi une autre, parallèle à celle-ci. Je vais écrire l'histoire de Tirti. Voilà ce qui m'a poussé à écrire cette histoire. Alors, ça fait à peu près une vingtaine de livres que j'ai écrits.
Celui-ci, c'est le dernier.
Le Tirti, je l'ai commencé. Le dernier, je vous ai parlé du chat. Oui, je crois que c'est à peu près tout. Je ne vois pas autre chose. Je ne me rappelle pas d'autre chose. Si je me rappelle d'autre chose, je vous le dirai. Je ne me rappelle pas d'autre chose pour le moment.
Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Quels sont les principaux ouvrages et auteurs que vous recommanderiez à un futur adepte du 88?
Oui,
enfin, du national-socialisme.
Attendez. D'abord, naturellement, les livres qui détruisent les préjugés qu'on a contre le chef. C'est-à-dire les livres de Christophe Hersen, Le mensonge d'Auschwitz, livre de Butz, B-U-T-Z, l'Américain, professeur à l'université Davidson en Illinois, Le mensonge du XXe siècle. Il y a Hardwood aussi, un Américain, qui a écrit dans le même sens. Tous les livres qui écrivent dans le sens... Ah, naturellement, en français, les livres de Racigné.
Paul Racigné. Ouais.
Paul Racigné. Le mensonge d'Ulysse, Le passage de la ligne, tous ces livres dans lesquels, étant lui-même un anti-nazi, enfin, en principe, il n'était pas exactement anti, mais il était pacifiste. C'est pour ça que la Gestapo l'accueillit. Il faisait de la propagande pacifiste en temps de guerre. Ça n'allait pas. Alors, ils l'ont mis à Buchenwald, dans un camp de concentration. Ils devraient savoir davantage sur les camps de concentration que ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. Eh bien, il écrit que, naturellement, c'était pas le paradis, mais que si c'était quelquefois assez pénible, ce n'était pas la faute des SS. Ils avaient une faute, selon lui, les SS, une seule, de ne pas assez s'en occuper, s'en rapporter sur des internés élus au suffrage universel par leurs camarades, les autres internés, pour la direction des camps. Seulement, comme dans les camps, il y avait la plupart des gens, des résistants, des communistes, tout ce que vous voulez. Il y avait aussi des gens du droit commun. Mais enfin, mettons des résistants, des communistes. Ils vous élisaient généralement pas le plus capable, mais le plus communiste ou le plus ardent résistant. Et ce n'était pas toujours un homme honnête. Des fois, quand il était appointé aux cuisines, il vendait la malmangeaille au marché noir à la population allemande. Et puis ce qui restait, c'était pour les camarades. Pour lui, naturellement, et ses petits amis, il y en avait davantage. Mais c'est tout. Et le Racigné décrit les appels dans le camp de Buchenwald. Il décrit la neige, n'est-ce pas? Les internés attendent la soupe dans la neige. Il faut les dénombrer vite. Celui qui les dénombre est un homme qui était élu par eux. Pas le principal capot, mais un autre capot. Il ne sait pas compter. Il vous en compte 152, et puis la deuxième fois, 154. La troisième fois, 155 ou 149, ils s'y connaissent rien. Ils attendent dans la neige en attendant. Des choses comme ça. Il vous dit, c'est la faute des capots. Son livre est très intéressant. Son livre sur Buchenwald. Je ne me rappelle plus si c'est le passage de la ligne ou le mensonge d'Ulysse. Enfin, il en a écrit d'autres. Il a écrit le dernier, c'est un livre sur... Ah, l'avant-dernier. C'est un livre sur les malheurs des Juifs européens. Il vous dit qu'il n'y en a pas 6 millions. Il est totalement, matériellement impossible qu'il y en ait eu 6 millions de gazés. Ils n'ont jamais été gazés du tout, d'abord. Ils sont morts, surtout de typhus dans les camps. Parce que l'Allemagne était en décapilotade à cause des bombardements massifs. Il n'y avait pas de médicaments acheminés vers les camps, ni vers la population, d'ailleurs. Il y avait des bombardements à outrance. Les camps de communication étaient coupés. Et quand les gens étaient malades dans les camps, ben, parfois, ou ils se guérissaient tout seuls ou ils mouraient. Les gens de la population allemande, la même chose. Il y a eu 5 millions et demi de morts civiles en Allemagne par les bombardements. Un chiffre qui excède de loin, le chiffre des Anglais victimes des bombardements allemands. J'ai d'ailleurs vu les ruines de l'Angleterre après la guerre. Et j'ai vu les ruines de l'Allemagne 3 ans après la guerre. 3 ans après la guerre, il y avait encore à Koblenz des remblais jusqu'au 5e étage, des débris. Et les gens vivaient dans les caves, vivaient où ils pouvaient. C'était terrible. Pensez à 350 000 morts dans une nuit à Hambourg. Presque 500 000, 400 000 et quelques à Dresden, le 13 février 1945, après les 4 vagues d'aéroplanes anglo-américains, de 1h du matin jusqu'à 10h du matin. Et alors, les rues de Dresden sont devenues, d'ailleurs celles de Hambourg aussi, des courants, des fleuves d'asphalte fondu. Et ça dégoulinait dans les caves. Les gens qui étaient en abri dans les caves ou dans les souterrains ont été noyés dans l'asphalte bouillante. C'est une mort que je n'envierais pas. Je préférais encore une chambre à gaz. S'il y avait eu des chambres à gaz, je préférais, parce que c'est plus vite fait. Certainement que ça.
C'est sûr.
En tout cas, voilà. Je le recommanderais aussi. Tous les livres qui traite des origines du christianisme. Il y a un auteur spécial que j'aime beaucoup, quoique ce ne soit pas du tout un auteur national socialiste. Au contraire, c'est des pro-juifs. Il aime l'Israël. Ben, c'est son goût, question de goût. On ne discute pas des goûts et des couleurs. Mais il est un savant et un érudit. Et un franc-maçon. Je m'en fiche. Tout ce que je demande, c'est qu'il soit bien informé. Or, il est très bien informé sur l'histoire d'Israël, l'Israël antique, sur l'histoire romaine, sur l'histoire grecque, sur l'histoire de l'Antiquité et sur l'histoire du christianisme. Et il a 3 livres que je recommanderais, édités chez Lafont, Robert Lafont, 6 place Saint-Sulpice, 6e Paris. L'auteur s'appelle Robert Ambelin, A-M-B-E-L-I-N. Le premier livre s'appelle Jésus ou le mortel secret des Templiers. Le deuxième s'appelle La vie secrète de Saint Paul. Le troisième s'appelle Les lourds secrets du Golgotha. Il paraît qu'il y en a un 4e de la même série. J'aimerais bien le lire si je le trouve ou si quelqu'un me le trouve. Ces livres sont passionnants. Et moi, je crois que ça serait une chose à faire. Parce que vous avez des quantités de gens qui justement n'osent pas faire le pas définitif et choisir l'hitlérisme parce qu'ils vous disent « c'est pas chrétien ». Évidemment, les principes nationaux-socialistes ne sont pas chrétiens. Ils sont antiques, ils sont ariens antiques. Ils ne seraient pas désavoués par les spartiates de l'Antiquité ou au fond par n'importe quel peuple de l'Antiquité qui était tolérant en ce qui concerne la religion mais qui avait sa religion nationale. Eh bien, vous avez dans les 25 points le point 24 qui est tout à fait lumineux. Je vous parlerai du point 4 aussi. Le point 24. Le parti s'en tient pour ce qui est de la religion à un christianisme positif ou si vous préférez à ce qu'il y a de positif dans le christianisme, c'est-à-dire l'entraide, aime ton voisin, naturellement, personne, aucune religion d'ailleurs ne vous dit de haïr votre voisin. Mais l'État national-socialiste tolère n'importe quelle religion, pourvu qu'elle soit en accord avec la moralité naturelle des Germains et qu'elle ne soit pas contre l'État, contre les principes de l'État. Or, d'après un national-socialiste, les principes naturels de la conscience des Germains défend le mélange des races. Une Germaine qui épouserait un nègre, ben, elle est au nid, évidemment. Je ne dis pas d'après l'hitlérisme, mais d'après les principes fondamentaux, la conscience fondamentale des Germains, aussi bien de l'Antiquité que de tous les temps. Or, les religions chrétiennes, aucune ne vous défend d'épouser un nègre. Si le nègre est catholique, vous êtes vous-même catholique, c'est parfait. Si le nègre est darbiste, ou adventiste du septième jour, ou témoin de Jéhovah, ou tout ce que vous voudrez, n'importe quelle secte protestante, vous pouvez l'épouser. L'Église orthodoxe serait peut-être plus difficile, parce qu'elle repose sur un... Elle est spéciale, n'est-ce pas, aux Européens du Sud-Est, spécialement aux Grecs. Les Grecs n'aiment pas ça, ces mélanges-là. Je n'ai jamais connu une Grecque qui avait épousé un nègre. Heureusement. Mais j'en ai connu une qui a épousé un juif. C'est pas mieux. Elle l'a épousé à la synagogue. L'Église orthodoxe n'a pas voulu qu'elle l'épouse. Ça, c'est autre chose. Et puis, il ne faut pas qu'elle soit contre l'État. Or, toute religion international qui, quand l'État est en cause et la religion, demande à ses adeptes de préférer la religion et contre l'État. Alors ce point 24 serait à interpréter et s'il est interprétable, eh bien il exclut le christianisme tel qu'il est vu jusqu'à nous. D'ailleurs c'est la même chose. La raison pour laquelle l'Antiquité, les gens de l'Antiquité, les vrais latins et les vrais grecs, l'Antiquité méditerranéenne, ne voulaient pas du christianisme, c'est surtout parce qu'il n'était pas une religion de cette terre, une religion qui exaltait la patrie. Or le national-socialisme exalte la patrie, exalte les ancêtres, exalte le sang et le sol. Alors que dans le christianisme, vous avez, par exemple, ce cantique que j'ai entendu autrefois dans l'église de la rue Fénelon, à Lyon. Non, ce monde n'est pas notre patrie. La joie est ici-bas. Trop flétrie, c'est la terre des pleurs, des luttes, des douleurs. Elle doit être ailleurs, Notre patrie. Il n'y a rien de si anti-Hitlérien rien que ça. Et moi-même, je n'étais pas... Dans ce temps-là, j'avais 13 ans quand je l'ai entendu. 13 ou 14 ans. J'ai accompagné des petites amies, des filles d'une amie à ma mère qui était protestante et qui allait à cette église. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Il y avait un beau soleil qui entrait par les vitraux. Je dis, mais ce chant-là, c'est une insulte au soleil. C'est une insulte au bien que nous avons de la nature, que la terre nous donne. Pourquoi? Pourquoi cette terre ne serait-elle pas notre patrie? Voilà ce que je voudrais imprimer dans la tête de ceux qui veulent rentrer dans la communauté bénie. Et puis naturellement, tous les livres écrits à l'époque, si on vous en trouvait, par exemple, l'histoire du national-socialisme de Johann von Leers, Odal de Johann von Leers, pour ceux qui lisent l'allemand, tous les livres de Johann von Leers, qui est mort en 1965, le 3 mars 1965. Tous les auteurs dans la littérature française, par exemple, les auteurs comme les classiques, je recommanderais Corneille et Racine. Évidemment, Paul Yeucht me paraît un peu, mais enfin, tout homme qui a envie d'entrer dans ce mouvement-là jugera que l'action de briser les idoles de la part de Paul Yeucht était une chose qui était choquante. D'ailleurs, les Romains n'ont jamais persécuté les chrétiens pour leur religion, mais toujours pour des actes qui étaient contraires au civisme romain. Par exemple, un homme passait devant une statue de l'empereur, il y avait là un petit brasier avec de l'encens. L'empereur était considéré comme divin, parce qu'il est l'incarnation de Rome. Le type oubliait de mettre un grain d'encens dans le brasier. « Alors, tu es chrétien ?»« Oui, je ne considère pas l'empereur comme divin. Je suis contre ça, mais pas dans ça. »« Très bien, eh bien, tu seras arrêté. Tu es contre le civisme romain. Tu es l'ennemi de Rome. » Pas des dieux, l'ennemi de Rome, au lion. La prochaine fois qu'on aura une affaire avec des lions qui vont manger les gens, tu seras mangé.